prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Thibaut Becchini, je suis doctorant en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis lauréat d'une bourse Zelidja attribuée par l'Académie française. Je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches sur les transformations urbaines de deux villes portuaires marquées par l'immigration italienne au XIXe siècle, Marseille et Buenos Aires. J'ai en effet fait le choix, dans le cadre de ma thèse de doctorat en histoire, d'étudier les mutations urbaines en lien avec les phénomènes migratoires, afin de mettre en lumière l'impact de la présence italienne sur la matérialité même de la ville, du tissu urbain. Plusieurs interrogations m'ont conduit à définir ce sujet de recherche. La première était la suivante. Construit-on différemment les villes qui connaissent un afflux migratoire particulièrement important ? Ce qui m'a amené à me poser une deuxième question. Quelle est la contribution des nouveaux venus de ces sociétés urbaines aux transformations des villes ? Observe-t-on l'introduction de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques de construction dans l'art de bâtir local ? Les manières d'habiter la ville au quotidien se modifient-elles sous l'effet des circulations migratoires ? La présence italienne à Marseille et à Buenos Aires transforme-t-elle la vie urbaine ? Enfin, une autre interrogation est apparue au fil de mes recherches. En effet, quelles sont les circulations, les connexions entre Marseille et Buenos Aires qui peuvent expliquer que les hommes du XIXe siècle aient parfois eu le sentiment d'une grande proximité entre ces deux villes, en dépit de leur éloignement topographique ? En effet, un chargé de mission du ministère du Commerce français va jusqu'à parler, à la veille de la Première Guerre mondiale, va jusqu'à parler de Buenos Aires comme d'une Marseille de l'Atlantique. Alors, ces observations des contemporains m'ont amené effectivement à rechercher dans la matérialité même de la ville ce qui pouvait donner ce sentiment de proximité entre chacun des deux ports. Pour ce qui est du cadrage chronologique de mon travail, j'ai choisi de travailler sur une période d'un demi-siècle, allant de 1860 à la Première Guerre mondiale. Cela m'a permis d'observer de manière fine les transformations urbaines et de voir comment certains quartiers sont sortis de terre au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1860, le Royaume d'Italie est sur le point de naître. C'est aussi le départ d'une émigration italienne qui atteint des proportions considérables à la fin du XIXe siècle. 1914, c'est l'entrée dans la Première Guerre mondiale qui porte un coup d'arrêt aux circulations transatlantiques. Il devient beaucoup plus compliqué alors pour les hommes d'aller et venir entre l'Europe méridionale et l'Amérique du Sud, puisque par exemple la régularité des lignes de navigation à vapeur, en particulier des lignes de navigation à vapeur qui relient Marseille à Buenos Aires et qui permettaient aux Italiens de gagner l'Amérique du Sud depuis Marseille, eh bien ces lignes de navigation à vapeur voient leur fonctionnement interrompu par l'entrée en guerre. Cette évocation des lignes de navigation à vapeur me permet d'évoquer un peu plus, de manière un peu plus détaillée, les connexions justement entre ces deux villes portuaires. En effet, l'objet de mon travail n'est pas seulement de comparer les effets de la présence italienne à Marseille et à Buenos Aires, mais aussi de montrer comment les deux villes se trouvent liées de plusieurs manières. Et à cette fin, j'étudie les connexions donc, qui concourent à ce sentiment de proximité que je soulignais il y a un instant. C'est le sentiment de proximité tient en grande partie à une matérialité urbaine très très proche dans les deux villes. Et cette matérialité urbaine, elle s'explique par le fait que les matériaux de construction qui sont employés à Buenos Aires dans la seconde moitié du XIXe siècle sont des matériaux de construction de production marseillaise. En effet, à cette époque, l'Argentine est un pays qui n'est absolument pas industrialisé, alors que Marseille est un grand centre de production des matériaux de construction, avec des exportations qui sont bien connues pour l'ensemble du bassin méditerranéen, mais qui concernent aussi des destinations plus lointaines, comme l'Amérique latine, et en particulier l'Argentine. En effet, à Buenos Aires, dans la seconde moitié du 19e siècle, on construit des maisons, des immeubles, dont les carreaux, les tuiles, sont des produits céramiques de fabrication marseillaise. C'est ce qui explique que les quartiers qui apparaissent dans les deux villes dans cette seconde moitié du 19e siècle se ressemblent parce que, tout simplement, eh bien, ce sont les mêmes matériaux de construction qui sont mis en œuvre dans les constructions qui apparaissent dans ces quartiers. Ensuite, ce qui explique également la proximité entre ces deux villes, ce sont des techniques de construction qui sont les mêmes. Et ces techniques de construction circulent de l'Europe méridionale vers l'Amérique latine en accompagnant tout simplement les déplacements des Italiens qui sont bien souvent, qui trouvent bien souvent dans le secteur du bâtiment une manière de s'intégrer au marché économique local marseillais ou au marché économique local de Buenos Aires. Et ces techniques de construction, elles sont dans une certaine mesure tout à fait comparables parce qu'elles sont déployées par des ouvriers de la construction qui sont italiens. Je pense notamment aux techniques cimentières, à tout ce qui concerne l'utilisation du ciment dans la construction, le ciment étant un matériau complètement neuf en cette seconde moitié du 19e siècle. Alors bien sûr, il y a depuis fort longtemps des mortiers que l'on appelle ciment, mais ça n'a rien à voir avec les ciments artificiels ou naturels de Portland qui apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle, et que les ouvriers italiens, dont les ouvriers italiens maîtrisent parfaitement les applications. Applications qui permettent notamment de réaliser l'ornementation de certaines façades entièrement au ciment, là où précédemment on avait plutôt recours soit à des façades qui utilisaient la pierre de taille, soit qui utilisaient d'autres liants comme le plâtre, mais qui étaient beaucoup moins résistants. Enfin, ce qui explique également la proximité dans les transformations matérielles de ces deux villes, eh bien, ce sont des circulations, d'autres types de circulations, en particulier la circulation des microbes, hein, on pourrait dire appeler ça comme ça, puisque les années 1880 sont marquées par la cinquième pandémie de choléra. Et l'irruption du choléra à Marseille et à Buenos Aires dans les mêmes années, au milieu des années 1880, interpelle les observateurs de l'époque. Et effectivement, notamment les experts, les médecins qui se penchent sur la question, ne tardent pas à établir une corrélation entre circulation migratoire et présence du choléra dans ces villes portuaires. L'assainissement des villes est donc décidé par les municipalités, à la fois par la municipalité marseillaise et par l'intendance de Buenos Aires. Et on observe en effet des règlements de construction et d'assainissement qui sont très proches, tout simplement parce qu'ils suivent les mêmes recommandations, les mêmes prescriptions afin d'endiguer les épidémies de choléra dans le cadre de villes qui connaissent une croissance urbaine tout à fait comparable liée à l'immigration. Le profil démographique des deux villes est d'autant plus comparable qu'en cette fin des années 1880, eh bien, Marseille et Buenos Aires ont à peu près le même nombre d'habitants, puisque Buenos Aires compte en 1887 à peu près 430 000 habitants, et Marseille, au début des années 1890, compte un peu plus de 400 000 habitants. Donc deux ports qui ont le même profil démographique et deux ports au sein desquels la population italienne occupe la même part dans la population générale, puisqu'on peut estimer dans ces années-là qu'un quart de la population de Buenos Aires et un quart de la population de Marseille est constitué d'Italiens, de natifs de la péninsule italienne. Enfin, dernier type de circulation dans ces années 1880-1890, la circulation d'une culture de la mobilisation sociale, puisque l'on observe entre Marseille et Buenos Aires des circulations nombreuses de militants socialistes et anarchistes qui concourent d'ailleurs à l'essor du syndicalisme dans le secteur du bâtiment, tant à Marseille qu'à Buenos Aires. Et ces militants socialistes et anarchistes sont bien souvent des Italiens qui, quittant la péninsule italienne, qui fuyant la répression du socialisme et de l'anarchisme dans le royaume d'Italie, eh bien, trouvent refuge à Marseille et à Buenos Aires et circulent entre les deux villes, contribuant, je le disais il y a un instant, à l'essor du syndicalisme ouvrier dans ces deux villes, notamment dans le secteur du bâtiment. Je voudrais revenir à présent sur le choix des quartiers qui m'ont permis de conduire cette enquête, puisqu'il s'agit à la fois de mettre en évidence des connexions globales, mais aussi d'avoir une approche plus micro-historique, en suivant véritablement des trajectoires individuelles. Et une des manières de suivre de manière convaincante ces trajectoires individuelles a été de prendre dans chacun des deux ports un quartier et d'observer ce qui se passait très concrètement en l'espace d'un demi-siècle dans ces quartiers en formation qui sont situés à la périphérie de Marseille et de Buenos Aires et qui sont effectivement des quartiers où les immigrants ont tendance à s'installer tout simplement parce que quand ils veulent accéder à la petite propriété immobilière, eh bien les parcelles de terrain sont beaucoup plus facilement accessibles dans ces quartiers périphériques qu'en centre-ville, évidemment. À Marseille, l'enquête a porté sur les quartiers de l'Est marseillais, qui sont des quartiers qui sont dépeints au début des années 1860 comme étant encore très ruraux. Hein, il s'agit d'une ceinture maraîchère qui, en l'espace d'un demi-siècle, va devenir une sorte de banlieue comprise dans les limites administratives même de la ville. On observe quelque chose de tout à fait comparable à Buenos Aires. Cette fois-ci, ce sont les quartiers de l'ouest de Buenos Aires qui ont retenu mon attention, puisque cette ceinture maraîchère qui ferme la ville de Buenos Aires à l'ouest dans les années 1860, eh bien, disparaît complètement à la fin du siècle, ayant été gagnée par l'urbanisation. Et on voit apparaître, que ce soit à Marseille comme à Buenos Aires, de nouvelles typologies d'habitat qui sont directement liées à la présence d'immigrants italiens dans ces quartiers de l'Est marseillais et de l'Ouest de Buenos Aires. Un autre choix important dans mon travail a été de travailler à partir des archives de la justice civile. On a beaucoup travaillé, quand il s'agit de traiter des questions d'immigration, à partir des archives de la justice pénale, qui sont des archives qui livrent plutôt une vision négative de la présence étrangère en ville. La justice civile permet d'observer des mécanismes tout à fait différents et notamment permet de documenter des mécanismes d'intégration à la vie urbaine qui sont radicalement différents de ceux que l'on voit à travers les archives de la justice pénale. La justice civile est en effet, à la différence de la justice pénale, une justice qui permet de régler des litiges du quotidien et que les immigrants ont tout intérêt à solliciter, alors que, en règle générale, on cherche plutôt à échapper à la justice pénale, eh bien, on a tout intérêt à se pourvoir devant les juges des tribunaux civils parce que on ne s'expose pas à la même répression quand on se pourvoit devant un juge civil que devant un juge au pénal. Et ces litiges civils permettent de documenter des aspects très précis de la formation de ces quartiers que j'évoquais tout à l'heure, puisque un certain nombre de questions qui tiennent à la construction de ces quartiers eh bien, relèvent de la justice civile. Toutes les questions de mitoyenneté, par exemple, sont des questions traitées par les tribunaux civils. Également toutes les questions qui tiennent aux successions, et on sait que les successions peuvent être litigieuses, eh bien ce sont des questions qui relèvent des tribunaux civils. La justice civile permet donc à l'historien de disposer d'un corpus tout à fait intéressant d'affaires, de procès, qui documente au plus près de la réalité urbaine eh bien, ce qu'était la vie dans ces quartiers de la périphérie marseillaise et de la périphérie de Buenos Aires dans la seconde moitié du XIXe siècle. Par ailleurs, le travail à partir des archives de la justice civile permettait aussi de disposer de dossiers très intéressants en matière successorale. J'en ai dit un mot déjà il y a un instant. Et ces dossiers successoraux sont intéressants à plus d'un titre. Non seulement parce qu'ils permettent concrètement de mesurer la manière dont le patrimoine immobilier a été pour ces immigrants italiens une manière de s'intégrer à la vie urbaine marseillaise ou porteña à Buenos Aires. Et ces successions mettent également en jeu des chaînes administratives qui relient plusieurs espaces. Puisque s'agissant de successions qui concernent des individus qui appartiennent à une diaspora, la diaspora italienne, eh bien, les successions mettent en jeu des chaînes administratives qui relient plusieurs villes à travers le monde, qui relient Buenos Aires à Marseille, puisque j'ai pu observer des familles disséminées entre les deux ports, mais également qui relient Buenos Aires à la péninsule italienne, Marseille à la péninsule italienne, et qui posent la question de l'effet retour dans la péninsule italienne du patrimoine immobilier accumulé par les immigrants italiens à l'étranger. Et les successions permettent de documenter cet effet retour où l'on voit le patrimoine immobilier que les immigrants se sont constitués à l'étranger, eh bien, transformé en flux financiers qui sont réacheminés vers la péninsule italienne et qui, à leur tour, peuvent être réinvestis dans la modernisation des villes dans la péninsule italienne. Donc là, on observe des flux financiers qui sont liés à cette présence des Italiens à l'étranger et qui permettent, notamment pour l'Italie du Nord, eh bien, disposer d'afflux monétaires en provenance de l'étranger. Ce travail n'aurait pas pu être finalisé sans la bourse Zelidja qui m'a été très généreusement attribuée par l'Académie française, puisqu'en effet, la bourse Zelidja me permet actuellement d'être accueillie à l'École française de Rome et de bénéficier à l'École française de Rome d'un appui tout à fait décisif pour consulter une source qui me permet de vraiment de finaliser ce travail doctoral, ce sont les rapports que les consuls italiens en poste à Marseille et à Buenos Aires rédigent de manière très régulière et qui sont ensuite envoyés au ministère des Affaires étrangères à Rome. Les consuls italiens en poste à Marseille et à Buenos Aires sont d'excellents observateurs des transformations urbaines que j'évoquais et sont également des agents administratifs qui interviennent dans les successions que je mentionnais il y a un instant. Et donc, il était tout à fait indispensable pour moi de consulter ces rapports pour pouvoir reconstituer de manière précise la chaîne administrative qui conduit des tribunaux civils en Argentine et en France jusqu'au consulat italien et avec des affaires qui remontent jusqu'au ministère des Affaires étrangères italien pour régler ces successions des Italiens à l'étranger. Et donc, cette consultation des rapports des consuls, je suis en train de l'achever à l'heure actuelle, grâce à cette bourse de l'Académie française qui me permet d'être accueilli par ailleurs dans une institution tout à fait prestigieuse, l'École française de Rome, où il est possible pour le jeune chercheur que je suis eh bien, de consolider aussi des relations de travail avec des collègues italiens. Et la bourse Zelidja permet aussi cela, c'est-à-dire d'être vraiment présent à l'étranger pour établir des collaborations avec d'autres universitaires afin de poser les jalons eh bien, de collaborations futures, notamment dans le cadre des recherches que je souhaite poursuivre une fois que ma thèse sera soutenue.